Bonjour à tous, bon lundi, nous sommes le 21 novembre, bon début de semaine. Bienvenue dans Le Débrief, votre rendez-vous quotidien en info à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. Nous avons actuellement 11 degrés au centre-ville de Victoria. Le ciel va s'ennuager un peu plus tard en soirée avec quelques averses, on s'en reparle un petit peu plus tard. La parole pour l'instant est à Denis Lépine qui nous livre ses deux bulletins quotidiens. Je vous retrouve de l'autre côté avec la météo détaillée et le radio-journal des Nations Unies. Ce sera suivi des infos provinciales, entre autres actualités. En interview, en toute fin d'émission, nous recevons aujourd'hui Dominique Wozniak, chargé des communications pour la Société francophone de Victoria. Dominique vient nous parler de la foire à l'emploi du vendredi 25 novembre. Toutes les infos sur francocentre.com. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Jane Philpott, ministre fédérale de la Santé, a profité du sommet sur les opioïdes pour être témoin de la signature de la déclaration commune pour aborder la crise des opioïdes, de concert avec les représentants du Centre canadien de lutte contre les toxicomanies. Le centre se joint ainsi à une quarantaine d'organisations pour changer le cours de l'utilisation et des méfaits des opioïdes au Canada. Selon la déclaration, les signataires devront communiquer sur une base trimestrielle avec les membres en surveillant leurs progrès, et ce à compter de mars 2017. Sabra Canada Incorporé procède actuellement au rappel de certains formats de produits humus. Selon le ministère, 25 formats pourraient être contaminés par la bactérie Listeria. La liste complète des formats touchés par le rappel se trouve sur le site Web de Santé Canada. Les produits visés ne peuvent être consommés et ont été vendus à l'échelle nationale. Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces produits n'a été signalé. L'Agence canadienne d'inspection des aliments s'assure du retrait du marché des produits faisant l'objet du rappel. Le gouvernement canadien a confirmé que le NCSM Vancouver a terminé les opérations de secours d'urgence en Nouvelle-Zélande suite au séisme qui a secoué le sud de l'île il y a une semaine. Le lieutenant-général Steve Bowes, commandant du commandement des opérations interarmées du Canada, a dit que le personnel à bord du navire a apporté une aide précieuse. Steve Bowes a aussi remercié l'équipage d'avoir agi rapidement pour aider les gens en Nouvelle-Zélande. Le séisme était de 7,8 à l'échelle de Richter. La Guilde canadienne des réalisateurs a déposé une demande de révision auprès du Conseil canadien des relations industrielles en vertu de la loi sur le statut de l'artiste visant à élargir la portée du secteur qu'elle représente. L'avis de la demande peut être consulté sur le site Web du Conseil. Le statut vise les entrepreneurs indépendants qui sont des résidents permanents ou des citoyens canadiens engagés dans toutes les productions par un producteur assujetti à la loi. Huitième forum d'Halifax sur la sécurité internationale, et le forum a rassemblé plus de 300 dirigeants de la défense de partout dans le monde en fin de semaine. Les discussions ont notamment porté sur l'instabilité continue au Moyen-Orient, le terrorisme mondial et les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le ministre canadien de la Défense, Arjit Sajjan, a souligné l'importance de ce dialogue ouvert et a réaffirmé l'engagement du Canada d'assurer une approche globale à l'égard des opérations de paix. Le premier ministre Justin Trudeau est rentré à Ottawa suite à son voyage au Pérou, où avait lieu en fin de semaine à Lima le sommet des dirigeants économiques de la coopération économique de l'Asie-Pacifique. Le premier ministre a échangé avec notamment Malcolm Turnbull, premier ministre de l'Australie. Justin Trudeau, qui en était à sa première rencontre de la PEC, a pris également part à des séances de réflexion des dirigeants de la coopération. Parmi les dossiers qui ont été abordés, notons le développement du capital humain et l'intégration économique régionale. L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada conclut sa 97e Assemblée générale annuelle. C'était à Gatineau, près d'Ottawa. L'Institut a décidé de redoubler d'efforts pour réduire la dépense excessive du gouvernement à la sous-traitance. Le syndicat a lancé un appel pour défendre et promouvoir l'adoption plus généralisée des pensions à prestations déterminées pour les employés des secteurs publics et privés en lien au projet de loi C-27. L'appel de candidature du gouvernement fédéral pour la mise sur pied d'un groupe directeur pour élaborer une stratégie d'innovation sociale et de finances sociales prend fin aujourd'hui. Le groupe va inviter dorénavant des chefs de file du milieu des industries sectorielles et communautaires à créer une stratégie d'innovation sociale et de finances sociales. Les membres du groupe seront annoncés au cours de l'hiver à venir. Le groupe entend mener des consultations et des activités de mobilisation. Au sport, eh bien, au football canadien, hier, présentation des finales de division dans l'Est, eh bien, avec des conditions hivernales, Ottawa a vaincu Edmonton 35-23, et dans l'Ouest, Calgary a vaincu facilement la Colombie-Britannique 42-15. Le match de la finale de la Coupe Grey aura lieu dimanche prochain à Toronto et opposera Calgary à Ottawa. Maintenant, au hockey, eh bien, la Caroline a défait Winnipeg 3-1 hier et Calgary a eu raison de Détroit 3-2. Ce soir, notamment, Calgary sera à Buffalo et Edmonton recevra Chicago. Dans la NBA, victoire de Sacramento 102-99 contre Toronto. Et dans la NFL, week-end numéro 11, des victoires entre autres pour la Nouvelle-Angleterre, Buffalo, Seattle, Miami. Et gain surprise de Tampa Bay 19-17 contre Kansas City. Ce soir, au match du lundi soir, Houston sera à Oakland.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans le débrief. Il est 16h06. Nous allons nous tourner maintenant vers la météo. Nous avons 11 degrés présentement au centre-ville. Il y aura des averses un petit peu plus tard en soirée, après 21h. Le maximum plutôt sera de 8 ce soir et cette nuit. Demain, on commence dans la pluie, quelques averses durant la journée, maximum de 10 degrés. Mercredi, 9 degrés avec des possibilités d'averses qui s'élèvent à 70%. Jeudi, la pluie se poursuit et ça dure comme ça au cours des prochains jours jusqu'au week-end. Même le samedi 26 novembre, selon les prédictions à long terme d'Environnement Canada, serait pluvieux. Donc de la pluie sur l'horizon actuellement. On profite donc de la journée puisque c'est ensoleillé actuellement à 16h07. Si je regarde le radar, on n'a aucune pluie dans le moment présent sur le sud de l'île de Vancouver. La pluie toutefois s'est manifestée du côté de Vancouver. Donc voilà pour le topo météo juste après 16h. C'est le moment d'aller au bulletin des Nations Unies. On va se retrouver de l'autre côté dans une dizaine de minutes avec les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies, avec en titre « La Syrie face à une situation sanitaire catastrophique ». L'ONU en appui aux élections locales au Mali, le fléau de la violence faite aux femmes, il sera aussi question des femmes dans l'industrie spatiale et en dossier, gros plan sur le dernier rapport d'ONU-SIDA. Le secrétaire général de l'ONU a condamné dimanche les frappes aériennes intenses qui se sont abattues ces derniers jours sur Alep Est, tuant et blessant des dizaines de civils et laissant 250 000 personnes sans hôpitaux. Et ce lundi, le Conseil de sécurité a fait le point sur la situation humanitaire en Syrie, l'occasion pour les 15 d'entendre Elisabeth Hoff, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé en Syrie, qui a procédé par vidéoconférence depuis Damas à un inventaire complet de la situation sanitaire catastrophique que connaît la Syrie, un pays qui, avant le conflit, avait un taux national de couverture vaccinale de 95% et où l'industrie pharmaceutique syrienne satisfaisait plus de 90% de la demande nationale en médicaments. Une situation clairement révolue. On l'écoute.
Plus de 300 000 personnes ont été tuées et plus d'1,5 million blessés depuis le début du conflit. Chaque mois, il y a 30 000 blessés supplémentaires. Près de 5 millions de personnes ont quitté le pays et un peu plus de 6 millions ont été déplacées. 13,5 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Près de 5 millions vivent dans des endroits assiégés ou difficiles d'accès. Ces chiffres sont stupéfiants. Les services de santé ont été dévastés. Plus de la moitié des hôpitaux publics et des centres de soins de santé primaires sont fermés ou ne fonctionnent que partiellement. Près des deux tiers des professionnels de la santé ont quitté le pays. La production nationale de médicaments a chuté de deux tiers et les taux de couverture vaccinale de moitié.
L'actualité, c'est aussi la tenue dimanche des élections locales au Mali. Déjà différées à 3 reprises, ces élections visent à remettre la démocratie sur les rails dans le pays. Et avant leur déroulement, le secrétaire général avait encouragé le gouvernement malien à poursuivre un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes pour apaiser les tensions qui pourraient survenir avant et après le vote. Sur place, la mission de l'ONU pour la stabilisation au Mali a apporté un soutien logistique et sécuritaire à la tenue du scrutin dans les zones de son déploiement. Les précisions du lieutenant-colonel Djibril Aboubakar, commandant du bataillon nigérien de la MINUSMA.
Cette mission nous demande de mettre en place un élément d'intervention rapide qui va intervenir en cas d'incident et en même temps appuyer les forces armées maliennes sur demande. Également, on a reçu mission d'escorter l'équipe de l'appui aux élections de la MINUSMA, l'équipe de l'information et de la communication de la MINUSMA, communément appelée PIO, et également effectuer des patrouilles dans la ville d'Ansongo au démarrage des élections et aussi à la fermeture des bureaux de vote parce que ce sont les deux périodes les plus tendues au cours des élections.
Avec quelques jours d'avance, les Nations Unies célèbrent ce lundi au siège de l'ONU la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une journée qui est célébrée en principe le 25 novembre, mais qui cette année le sera durant 2 semaines jusqu'au 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. Car le fléau est vraiment de taille. Dans certains pays, 70% des femmes déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles d'un partenaire intime et la violence conjugale représente entre 40 et 70% des victimes de meurtres. Jérôme Languet.
Dans la salle du Conseil économique et social, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est venu lundi matin soutenir le lancement des 16 journées d'activisme de la campagne mondiale contre la violence basée sur le genre, une campagne qui invite chaque personne à se mobiliser pour mettre un terme aux violences faites aux femmes et aux filles à travers le monde. En 2016, la campagne Unite met en effet l'accent sur la nécessité de financer durablement les efforts visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable. Or, le manque inquiétant de financement est l'un des principaux obstacles aux efforts déployés pour prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles de tous horizons. D'où le thème retenu en 2016, Oranger le monde, lever des fonds pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles.
Et puis à Dubaï, s'est ouvert ce week-end le forum de haut niveau du Bureau des affaires spatiales de l'ONU consacré au rôle de l'espace comme moteur d'un développement socio-économique durable. Ce lundi, l'accent était mis sur le rôle des femmes dans le secteur spatial, une filière où elles demeurent sous-représentées. Pour la présidente d'Eurici, une association qui regroupe différentes agences spatiales européennes, il faut encourager les filles à suivre des études scientifiques. On écoute Dominique Tillmans.
De gros efforts sont à faire pour convaincre les jeunes femmes de se lancer dans une carrière spatiale. Alors peut-être que le meilleur argument, c'est de vous dire qu'il va y avoir énormément de départs à la retraite au cours de cette décennie, puisque la moyenne d'âge du secteur spatial en Europe est de 44 ans, mais la tranche d'âge des 48-58 ans représente 35% du secteur. Donc il va y avoir énormément de départs à la retraite et donc beaucoup d'engagement. Alors je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter, c'est un métier magnifique, mais je pense que la première politique, elle est à la maison. Je pense qu'il appartient aux mamans d'abord d'éduquer leurs filles comme les garçons. Et donc on ne donne pas une poupée, une petite fille, une voiture aux petits garçons. Nous devons donner de l'ambition à nos filles et les pousser vers la carrière scientifique.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
ONU SIDA a publié ce lundi son dernier rapport, un document dans lequel le programme commun de l'ONU sur le VIH-SIDA se félicite de l'augmentation du nombre de malades ayant accès à la trithérapie. 18 millions de personnes ont désormais accès à des traitements efficaces contre le SIDA. ONU SIDA avertit en revanche que les jeunes femmes âgées entre 15 et 24 ans sont particulièrement à risque de contracter le virus, notamment en Afrique subsaharienne. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a contacté Peter Gies, directeur du département Information stratégique et évaluation à ONU SIDA.
Donc nous avons les tout derniers chiffres sur l'accès au traitement antirétroviral pour le monde. Et là, nous estimons qu'à la mi-2016, il y a plus de 18 millions de personnes qui sont sous trithérapie. Nous pensons que c'est quelque chose de très impressionnant parce que Ça représente à peu près la moitié de toutes les personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui. Il est vrai aussi que ce nombre doit encore beaucoup augmenter parce que l'ambition du monde, c'est quand même de mettre sous trithérapie à peu près 30 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Et donc, beaucoup reste à faire. Aussi, quand nous regardons ces chiffres à un niveau sous-régional, on voit que dans l'ensemble, l'Afrique subsaharienne a quand même de bons taux de couverture de trithérapie.
C'est dû à quoi?
C'est parce qu'il y a des systèmes qui ont été développés qui font qu'il y a beaucoup d'attention pour cet aspect de services de santé. La situation n'est pas égale dans toute la région de l'Afrique subsaharienne. Et notamment, on trouve que les taux de couverture de trithérapie sont élevés en Afrique australe et en Afrique de l'Est, mais le sont beaucoup moins en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest et centrale a des taux de couverture qui sont entre 30 et 35% de couverture, alors que l'Afrique australe et de l'Est, elle va atteindre des taux de couverture qui s'approchent de 50%.
Et malgré ces résultats encourageants par rapport à la trithérapie, le rapport aussi met en garde quand même sur la vulnérabilité d'un certain nombre de groupes, surtout les femmes âgées de 15 à 24 ans. Et pourquoi alerter sur ces femmes?
Bon, nous pensons que c'est important parce que ces femmes présentent des taux d'incidence, c'est-à-dire de survenue de nouvelles infections au VIH, qui sont beaucoup plus élevés que les hommes dans le même groupe d'âge. Et donc, elles représentent une vulnérabilité qui est plus importante que pour les hommes. Ensuite, nous disons que pour les plus jeunes d'entre elles, d'une part, elles sont à risque élevé, mais aussi elles sont infectées, mais elles ne savent pas qu'elles le sont. Et donc, il existe un double risque. D'une part, elles ne pourront pas avoir accès à la trithérapie parce qu'elles ne se savent pas infectées. Et d'autre part, elles-mêmes vont représenter aussi un risque de transmission à leur partenaire parce que si la personne n'est pas consciente de son infection, elle ne peut pas non plus prendre des mesures pour éviter une transmission à une tierce personne.
Et cette vulnérabilité de ces femmes, vous la constatez beaucoup plus en Afrique subsaharienne ou bien c'est dans d'autres régions?
C'est surtout en Afrique subsaharienne et nous mettons en avant dans notre rapport des situations qu'on observe en Afrique de l'Est et aussi en Afrique australe où notamment on peut trouver des taux de survenue de nouvelles infections chez les jeunes femmes qui sont parfois elles vont représenter jusqu'à 90% de toutes les infections dans ce groupe d'âge, alors que les jeunes hommes vont représenter peut-être seulement 10% d'infections.
Et c'est avec Peter Guis que se referme ce journal de la radio des Nations Unies, une édition retrouvée sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
16h17, vous écoutez Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. On a 11 degrés au centre-ville actuellement. On change de perspective. C'est le moment de passer aux nouvelles provinciales. Plusieurs médias ont rapporté cette manifestation qui contestait le projet de pipeline Kinder Morgan, un projet d'expansion voulu par la compagnie Kinder Morgan. Le pipeline s'appelle Trans Mountain. Vous en avez sans doute entendu parler. Il en a été souvent question dans l'émission Le Débrief. Radio-Canada est parmi ces médias qui ont fait état de la manifestation de samedi. Environ 3000 personnes ont défilé dans les rues de Vancouver samedi lors d'une manifestation contre l'expansion du projet d'oléoduc Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan. On trouve cette nouvelle sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Des membres de Premières Nations, des écologistes, des députés ainsi que le maire de Vancouver, Gregor Robertson, ont pris part à la marche organisée par le groupe Climate Convergence Metro Vancouver. Des slogans ont été scandés et des pancartes brandies. Des voitures ont klaxonné en témoignage de soutien et le maire Robertson a déclaré à CBC qu'il fallait s'attendre à des manifestations similaires à l'avenir contre ce projet d'oléoduc. Ottawa doit rendre sa décision finale sur l'avenir de ce projet Trans Mountain au plus tard le 19 décembre, donc avant la fin de l'année 2016. Kinder Morgan veut doubler la taille de ce pipeline existant pour transporter l'équivalent de 900 000 barils de produits pétroliers par jour, des produits qui proviennent des sables bitumineux de l'Alberta. Et le pipeline aurait son terminus à Burnaby, donc en région vancouveroise, et serait terminé pour son expansion en 2018, si le projet, bien sûr, va de l'avant. Et la contestation s'est poursuivie aujourd'hui, lundi, à l'échelle du pays. Une cinquantaine de manifestations étaient au menu d'un océan à l'autre pour demander au premier ministre Justin Trudeau de ne pas donner son feu vert au projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain entre l'Alberta et le port de Burnaby. Il y a justement une manif qui se tient ici même à Victoria. C'est dans quelques minutes au carré Centennial. Les gens vont se rassembler et tenir une vigile. Donc, il n'y a pas de marche dans les rues. C'est un rassemblement à proximité de l'hôtel de ville, donc au carré Centennial, angle Pandora et Government, grosso modo, en plein cœur de Victoria. On passe à la crise des surdoses d'opioïdes. Il en a été question un petit peu dans le bulletin de Denis Lépine un peu plus tôt. La Colombie-Britannique exhorte Ottawa à redoubler d'efforts. Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Terry Lake, presse le gouvernement fédéral d'annoncer des mesures supplémentaires pour endiguer la crise des opioïdes. Il propose la mise en place d'un système de surveillance pour détecter les surdoses et les autres torts causés par cette drogue. Le principal opioïde qui est en cause depuis plusieurs mois, c'est le fentanyl, vous le savez. Selon les chiffres du service des coronaires, peut-on lire dans cette dépêche de la presse canadienne, 622 personnes sont mortes d'une surdose dans la province de Colombie-Britannique entre janvier et octobre cette année. Cette statistique représente plus du double du nombre de personnes ayant péri dans des accidents de la route l'an dernier. Le commentaire de Terry Lake survient alors que les ministres de la Santé et plusieurs experts sont réunis à Ottawa pour aborder la question de cette crise de santé publique qui touche le pays dans son ensemble. Santé Canada s'est engagé par voie de communiqué il y a quelques jours à publier une mise à jour de son plan d'action en matière d'opioïdes d'ici février 2017. Le ministère promet, entre autres, de mieux informer les Canadiens quant aux risques reliés à la consommation de cette substance, dont le très connu fentanyl. Je vous mentionne par ailleurs une nouvelle aperçue dans le journal local, le Times Colonist. Il est question de l'extension d'un sentier entre Ucluelet et Tofino. Donc, c'est un sujet beaucoup plus léger. Donc, le Times Colonist qui rapporte la décision de relier Ucluelet et Tofino par sentier. Il y avait un réseau de sentiers, mais il n'était pas complété. Donc, le parc national Pacific Rim National Park va pouvoir entamer la construction de ce sentier de 28 km, rapporte-t-on dans le Times Colonist. C'est un projet de plusieurs millions de dollars, 17,7 millions de dollars pour mener à bien ce projet de sentier consolidé entre Tofino et Ucluelet. C'est une randonnée probablement qui peut se faire en une journée et demie, peut-être moins, tout dépend de la forme des randonneurs, mais assurément c'est une randonnée qui sera vraiment spectaculaire, puisque l'océan à cet endroit et les forêts anciennes sont vraiment vraiment très impressionnantes. Autrement, faits divers sur Victoria News aujourd'hui, Victoria News qui rapportait que des équipes du service d'incendie avaient lutté la nuit dernière contre un feu qui s'était déclaré dans un lotissement de maisons sur Hillside. Le feu s'est déclaré vers 3h du matin. Aucun blessé n'a été rapporté, fort heureusement, mais plusieurs personnes ont été déplacées. C'est sur le site de Victoria News, l'adresse vicnews.com. Autrement, pour terminer ce bloc provincial, deux nouvelles un petit peu insolites. On commence par la première qui concerne l'élection de Trump. Radio-Canada rapporte qu'une entreprise établie à Philadelphie offre à ses employés déçus des résultats de la présidentielle 2016 la possibilité de venir travailler dans sa succursale vancouveroise. Donc, c'est une porte de sortie qu'une entreprise appelée Weblink offre à ses employés. L'article de Radio-Canada indique que l'entreprise ne lésine pas sur le bonheur du salarié pour cette jeune entreprise de technologie qui embauche plus plus de 150 personnes aux États-Unis. Il est hors de question de laisser partir ses talents. L'entreprise a rapidement ouvert la porte à une relocalisation à long terme dans les bureaux vancouverois de Weblink pour ceux qui le souhaitent. Jusqu'à présent, il était possible d'y séjourner pour de courtes périodes allant jusqu'à 6 mois. Donc, cette possibilité a été étendue pour un séjour permanent pour ceux qui le désirent. Donc voilà pour cette première nouvelle insolite. Pas si insolite que ça, puisque le nombre d'Américains intéressés à venir s'établir au Canada est assez important. On l'a constaté dans le secteur de l'immobilier. Les agents immobiliers de Vancouver, entre autres, reçoivent beaucoup d'appels concernant la propriété, l'achat de propriété dans la région. Des Américains qui sont curieux de savoir quels sont les prix, quel est le prix des loyers, des maisons, etc. Autrement, autre nouvelle insolite pour refermer ce bloc provincial, des voleurs de bois de clôture sévissent. C'est rapporté par l'agence QMI, c'est repris du Vancouver Sun. Afin de satisfaire la demande en matière de tendance de décoration, des voleurs pillent de plus en plus souvent du bois de clôture le long de l'autoroute 5 en Colombie-Britannique, mettant ainsi en danger la vie des automobilistes. Selon le Vancouver Sun, l'Association des éleveurs de bétail britanno-colombien a recensé au moins 6 vols de bois le long de l'autoroute cet automne pour une valeur estimée de 50 000 $. Les planches sont ensuite revendues sur le marché de la décoration à des citadins souhaitant ajouter une touche rustique à leur domicile. Voilà, donc c'est dans le portail de TVA Nouvelle, c'est rapporté par l'agence QMI en date d'aujourd'hui, 21 novembre. On referme ce bloc provincial, on va faire une petite pause musicale. Je vous propose d'entendre un groupe qui s'appelle On a créé un monstre. La pièce s'intitule Rencontre surprise. On se retrouve dans quelques minutes.
Thank you.
La formation On a créé un monstre avec la pièce Rencontre surprise dans le débrief à 16h29. Vous écoutez CILS. Merci de nous écouter en rediffusion dans la matinée du 22 novembre. C'est le moment de passer au bloc nouvelles du jour. Le Canada veut lâcher le charbon. C'est la manchette qui paraît aujourd'hui dans le portail de Libération, le journal Libération. Donc c'est une nouvelle, autant le dire, qui fait le tour du monde. Elle est dans tous les médias canadiens aujourd'hui. Je vous lis quelques passages donc sur cette décision qui a été communiquée par notre ministre de l'Environnement. La ministre de l'Environnement canadienne a annoncé la volonté de fermer toutes les centrales du charbon, les centrales de charbon du pays pour 2030, quelques jours seulement après la fin de la COP22, la conférence des parties sur le climat organisée cette année au Maroc. Le gouvernement canadien a décidé de marquer le coup en revoyant à la hausse ses ambitions climatiques. C'est lors d'une conférence de presse à suspense lundi que Catherine McKenna, la ministre de l'Environnement canadienne, a annoncé la volonté du gouvernement de fermer ses centrales au charbon d'ici 2030. Le but, accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les fameux GES, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Ces centrales, situées dans 4 provinces, rejettent environ 10% des émissions totales de GES au Canada. La ministre a justement fixé un nouvel objectif de réduction des émissions de GES, moins 80% d'ici 2050 par rapport au niveau de 2005. Les écologistes et une partie de l'opposition reprochaient jusqu'à maintenant au gouvernement libéral de Justin Trudeau d'avoir conservé les mêmes objectifs que le précédent gouvernement conservateur, le gouvernement de Stephen Harper, à savoir moins 30% d'ici 2030. Alors le nouvel objectif, c'est moins 80% d'ici 2050 par rapport à la référence de 2005. La fermeture des centrales permettra de réduire de plus de 5 millions de tonnes de CO2 les émissions du Canada vers 2030, a indiqué la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, rapporte Libération. Environ 80% de la production d'électricité du Canada provient actuellement d'énergies renouvelables et l'objectif est de faire passer cette proportion à 90% aux alentours de 2030, a-t-elle précisé. On passe à un tout autre sujet d'ordre spirituel, celui-là. Le pape François autorise tous les prêtres à absoudre l'avortement. Alors, c'est une grosse nouvelle qui a été relayée par la presse à l'échelle mondiale aujourd'hui. Je vous lis quelques lignes d'un article paru dans Jeune Afrique, le magazine hebdomadaire francophone d'actualité. Alors que se concluait lundi 21 novembre le jubilé de la miséricorde organisé par François, le souverain pontife a donné à tous les prêtres le pouvoir d'absoudre quiconque aurait eu recours ou aidé à un avortement. Le jubilé s'achève et la porte sainte se referme, mais la porte de la miséricorde de notre cœur demeure toujours grande ouverte. Par ces mots, le pape François a conclu cette année 2015-2016 qui marque le cinquantenaire du Concile Vatican II par un jubilé de la miséricorde. Et par cette porte laissée entrouverte, l'ecclésiastique compte bien laisser entrer toutes les personnes ayant eu recours ou ayant contribué à un avortement. Dans sa lettre, le pape François a effectivement écrit ces quelques lignes synonymes de grands changements au sein de l'Église catholique pour qu'aucun obstacle ne s'interpose entre la demande de réconciliation et le pardon. Je concède à tous les prêtres, à partir de maintenant, en vertu de leur ministère, la faculté d'absoudre le péché d'avortement. Et pour cause, jusqu'à présent, seuls les évêques et certains prêtres expressément mandatés avaient la possibilité d'absoudre une femme ayant avorté ou une personne l'y ayant aidée. En prenant cette décision, le pape François a tenu à préciser qu'il restait ferme sur la question de l'avortement autorisé dans 4 pays seulement sur le continent africain, à savoir Tunisie, Mozambique, Afrique du Sud et Cap-Vert. « Je voudrais redire, a dit le pape, de toutes mes forces que l'avortement est un péché grave parce qu'il met met fin à une vie innocente. Cependant, je peux et je dois affirmer avec la même force qu'il n'existe aucun péché que ne puisse rejoindre et détruire la miséricorde de Dieu quand elle trouve un cœur contrit, a-t-il expliqué. Donc voilà l'explication de cette décision qui est importante considérant les positions historiques de l'Église catholique. Le pape François autorise tous les prêtres à absoudre l'avortement. Je vous ai lu quelques lignes du papier de Jeune Afrique, mais c'est un petit peu partout dans la presse mondiale aujourd'hui. Autrement, plus près de chez nous, Jason Kenney, c'est peut-être un nom qui vous est familier. C'était un ministre du cabinet Harper dans le gouvernement de ce dernier, entre 2006 et 2016. Il est candidat à la direction du Parti progressiste conservateur de l'Alberta actuellement, donc sur la scène provinciale de l'Alberta. Il s'est reconverti en politicien provincial, dis-je bien, et il s'est mis dans les pieds dans les plats, si vous voulez. C'est rapporté par la presse canadienne. Jason Kenney doit payer une amende pour avoir enfreint des règles de campagne. Le candidat à la direction du Parti progressiste conservateur de l'Alberta, Jason Kenney, s'est vu imposer une amende de $5,000 par le parti à la suite d'une enquête sur ses activités lors d'une rencontre visant à sélectionner des délégués la semaine dernière. L'enquête a été lancée par l'Association progressiste conservatrice de l'Alberta après que le parti eut allégué que Jason Kenney avait enfreint les règles de la course à la direction en louant une suite de réceptions près de la rencontre qui devait permettre de choisir les délégués dans la circonscription d'Edmonton-Ellerslie le 16 novembre. Donc, il a fait interférence en substance. Donc, Jason Kenney s'est présenté à la rencontre et s'est fait montrer la porte par la présidente du parti, Catherine O'Neill. Les candidats, en effet, n'ont pas le droit d'assister à la sélection de délégués qui seront chargés de choisir le prochain chef, et ils n'ont pas le droit même de s'approcher du lieu de la rencontre qui permettra d'effectuer cette sélection. Donc, il a contrevenu de façon grave aux règles de son propre parti, et l'amende qui lui a été imposée s'élève à $5,000. Donc c'est dans la presse canadienne aujourd'hui. Et je termine ce bloc nouvelle du jour. Le temps file. Je termine en mentionnant cette dépêche parue sur le portail de Radio-Canada. Ottawa doit décider de l'avenir de deux projets de pipeline d'Enbridge, donc de la compagnie Enbridge, cette semaine même. Donc le cabinet fédéral étudie de nombreux projets de pipeline, rappelle Radio Canada dans cet article, mais il doit se prononcer d'ici vendredi 25 novembre sur deux projets d'envergure proposés par la compagnie Enbridge, dont donc il s'agit numéro 1 du renouvellement de la canalisation 3, comme on l'appelle. C'est un projet de $7,5 milliards, et numéro 2, le fameux pipeline Northern Gateway qui a réuni contre lui à peu près toute la société civile, les groupes environnementaux et les Premières Nations. Donc, le gouvernement se prononce sur ces deux projets de l'entreprise Enbridge d'ici quelques jours. On va suivre ça dans le débrief, bien sûr. On retourne en musique. C'est le moment d'écouter une pièce intitulée Pénélope. C'est d'une formation qui s'appelle Le boson de Higgs, c'est nous. Donc, un nom assez humoristique. Le boson de Higgs, c'est nous. À tout de suite.
Chez toi, et la face à claque ne mérite que ça.
Et la face à claque ne mérite que ça.
Elle revoit ses moves dans le miroir. C'est une fronde qu'elle a en guise de bras.
C'est une fronde qu'elle a en guise de bras.
Mal placé, ça pourrait bien être enflé jusqu'à demain.
Pourrait être enflé jusqu'à demain.
Si le front est plus cassé, pour tordre le pouce d'Aouin de ses propres mains.
Le pouce d'Aouin de ses propres mains.
Il n'y a pas que tu
triste, elle pleure, la sauvagesse.
La beauté, elle pleure, la sauvagesse.
Et ça sûrement de son père, elle n'en est pas à son premier coup de pied aux fesses.
Oh, à son premier coup de pied aux fesses.
Vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute également en rediffusion dans la matinée du 22 novembre. On a actuellement 11 degrés, plutôt 10 degrés. On a perdu 1 degré. Le mercure affiche 10 degrés actuellement au centre-ville de Victoria. Et c'est le moment de se pencher sur quelques éditoriaux que j'ai repérés en préparant l'émission. Tout d'abord, dans l'Express de Toronto. L'Express de Toronto étant vraiment un journal phare pour la francophonie canadienne avec l'Acadie Nouvelle et le Droit d'Ottawa. Donc, l'Express de Toronto nous parle aujourd'hui du 30e anniversaire de la loi sur les services en français en Ontario. Donc c'est une loi qui a fait date, adoptée le 18 novembre 1986. La loi sur les services en français de l'Ontario a permis des avancées notoires, mais elle est désormais désuète, a commenté vendredi le nouveau président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Carole Jolin. Une nouvelle version de la loi sur les services en français s'impose, a-t-il déclaré. C'est rapporté par l'Express de Toronto, qui indique aussi que c'est également le point de vue du commissaire au service en français, François Boileau, justement chargé d'enquêter sur les manquements à la loi, dont le dernier rapport plaide pour une LSF 2.0, donc une loi sur les services en français 2.0, une loi qui, entre autres, remplacerait les 26 régions désignées de l'Ontario par une seule et même région, à savoir toute la province. Alors voilà, c'est un retour sur les 30 ans de la loi sur les services en français dans l'Express de Toronto, une nouvelle francophone qui touche toute la francophonie et qui parle d'un sujet qui nous est cher ici au débrief, les droits linguistiques, l'accès aux services en français. Sinon, on fait un petit saut du côté européen. À l'international, c'est officiel, Nicolas Sarkozy est écarté de la campagne présidentielle de 2017 en France. L'ancien président a perdu aux primaires qui étaient organisées par sa famille politique cette semaine. Et on retrouve bien sûr nombre d'analyses dans les médias français. J'ai repéré un texte pour vous dans le portail Mediapart, mediapart.fr. C'est signé par Hélène Salvi et Donatien. Je vous en lis quelques lignes. Le titre « Affaires, Front National, Gauche, Islam, Droite catholique, ce qui a enterré Nicolas Sarkozy ». L'ex-chef de l'État français s'est fracassé sur les murs de l'anti-sarkozisme. Département par département, les résultats du premier tour de la primaire montrent les raisons pour lesquelles les électeurs se sont mobilisés dans le seul but de l'évincer. Il avait promis un blast, il l'a en effet très bien senti. Dimanche 20 novembre au soir, Nicolas Sarkozy a été balayé de la primaire de la droite et du centre. Sa défaite est sans appel. Avec seulement 20,8% des suffrages exprimés, l'ex-chef de l'État français s'est littéralement fait écraser par ses adversaires, à commencer par son ancien premier ministre, François Fillon, qu'il a finalement décidé de soutenir après l'avoir longtemps rêvé à terre et sans oxygène. Donc il a placé son appui derrière la candidature de François Fillon, qui lui est toujours en selle en vue de cette nomination à la primaire de droite et de centre. Plus loin dans le texte, le détail des résultats département par département témoigne de la défection de la quasi-totalité des électeurs sarkozystes de 2007 et de 2012, donc année d'élection présidentielle bien sûr, de la droite identitaire à la droite catholique en passant par le centre et par les déçus du hollandisme. L'ancien président Sarkozy s'est fracassé sur tous les murs de l'anti-sarkozysme. Plusieurs raisons expliquent cette défaite. Ses multiples casseroles judiciaires, ses outrances presque aussi nombreuses et son bilan jamais digéré par ceux qui avaient cru à ses promesses. Et voilà, ça se poursuit sur plusieurs paragraphes. On va s'arrêter là. Je vous propose d'aller à l'interview dans quelques instants. Mais auparavant, on va écouter une pièce de Bernard Adamus, une pièce récente qui s'intitule « La question à 100 piastres ». Et au retour, c'est l'interview du jour avec Dominique Wozniak qui nous parle de la foire à l'emploi qui se tiendra dans quelques jours, le vendredi 25 novembre, ici à Victoria. Toutes les infos sur francocentre.com. On se retrouve dans quelques minutes.
Tranquille, ils se mènent à soi. Tu clôt la tienne du rouge pendant que je bois du noir. C'est la démence vasculaire. T'es fouéré des sauts fonds, ça comme des vieilles sacoches. Tu clôt dans ma bien pour l'enfer du dollar. Les 30 cents de fond de poche. Pas de lumière sur le sentier, pas de flamme au bout de ta torche. La question est proche, mais la réponse est pareille. Hey, c'est moi qui hallucine, ou ben c'est le fond de bouteille. Tu clôt d'appoigner le téléphone, pis elle appelle son homme. Elle dit, c'est mon voisin que je t'aime, j'ai pas une maudite scène. L'hiver va être long cette année, j'suis cassé, ben raide. J'cherche tout bas du côté du mousse qui est un peu de blé. De pain blanc, tant qu'il fume de la feuille. Il cherche une guêpe de fin de mois. Arrondir, qu'est-ce qu'il y a pour l'autre bord de la fête? C'est la tempête qui arrive, les flots font la fête. Il y a des rêves en boucane, puis des remords de bonnes femmes. S'accroche des 30 trop tôt, la musique perd de son charme. La question est proche, mais la réponse est pareille. Tu cherches de quoi est magique, est-ce que tu vas te mettre dans les oreilles? Trentaine d'années dans le corps, avec un disco sur le dos. On s'entend, tu pas le Père Noël, tu vois sortir du métro. L'hiver va être long cette année, il est cassé, ben reste. Il cherche tout bas du côté, cette mousse qui est un peu de blé. Faire grand chose, ça pas chat, t'es des rangaines, pis dire aux filles que je les aime. Une saison slush de bouette, de ganou, pis de frette. Une charge et ma bonne femme pour s'élever avec. Elle a des beaux bras de ciel, solides comme le fer. The girl that I love got long black curly hair. Ça allège rap aujourd'hui, pis j'ai curé de chanter comme hier. C'est que t'aimes de même, mais ton sourire me rend fier. La question approche, est-ce que la réponse s'en vient? Ton odeur à maison va-tu être là demain? J'étais à quatre pattes de la cuisine en train de shiner le carrelage. Des jardins dans le tapis, c'est qui la femme de ménage? J't'avais de me péter les dents.
hyperville heureusement. Y'a la job qui m'appelle pour t'accoler ta maison. Savais que soleil brise ces plages de maté. La bière coule à flot dans les ports de CV. Je ramène enfin un fou qui compte ses billes. Et regarde, je comme un malade dans un allée de cueil. La question approche, elle me bourdonne des oreilles. Si je veux du miel, faut vraiment que je fasse comme l'abeille. Là, c'est soir de chaud, toutes les vins des bons. De 5 piastres à la porte pour le gars classico.
Vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9. On est en fin d'émission. Vous écoutez le débrief. C'est le moment de passer à l'interview du jour. J'ai le plaisir de retrouver en studio Dominique Wozniak de la Société francophone de Victoria. Bonjour Dominique.
Bonjour Alexis. Bonjour à tous.
Alors, la Société francophone co-organise avec la Fédération des francophones de Colombie-Britannique et le programme d'immigration francophone de la Colombie-Britannique, notamment entre autres partenaires, une foire à l'emploi. Ça se déroule le 25 novembre et Dominique, tu as tous les détails.
Oui, alors si vous êtes à la recherche d'un emploi ou bien si vous souhaitez changer d'emploi, nous vous convions à la deuxième foire à l'emploi francophone à Victoria. Elle aura lieu le vendredi 25 novembre de 10h à 14h en collaboration avec GT Hiring. Donc c'est au GT Hiring 415 rue Gorge Est. Bien sûr, c'est gratuit. Vous êtes tous les bienvenus. En revanche, il faut s'inscrire. Alors l'adresse de l'inscription, c'est goo.gl/en. 2, c'est le chiffre, J capital EY. Vous retrouvez toutes ces informations sur notre site internet.
francocentre.com.
Oui, dans francocentre.com, vous allez sur l'onglet actualité, en date du 25 novembre, et vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'affiche, vous avez un lien direct pour vous inscrire.
Formidable. Donc quand on dit que tout le monde est bienvenu, on parle des chercheurs d'emploi comme des employeurs ou les employeurs sont déjà inscrits?
Ceux qui recherchent un emploi sont les bienvenus et ils sont conviés à s'inscrire. Oui, en effet, nous avons une salle avec des partenaires communautaires, comme la Société francophone, bien sûr, on aura un stand. Et puis, la salle avec les employeurs, notamment Parc Canada, le Conseil scolaire francophone, nous avons Commissionnaire, c'est une société de sécurité, et plusieurs autres. Donc, vous êtes tous les bienvenus.
Formidable. Autre chose à savoir
Des conseillers à l'emploi seront présents pour vous aider dans vos recherches et à pratiquer vos entrevues. Donc, même si vous ne trouvez pas d'employeur, etc., vous pouvez toujours venir, vous avez des conseils, vous avez des ordinateurs à votre disposition, Internet, tous les outils d'information sont à votre disposition. Il y aura aussi un lunch léger qui sera servi, composé de crudités et de sandwichs. Et puis, je tenais aussi à rappeler que la Société francophone offre un service à l'emploi. Vous pouvez prendre rendez-vous...
Permanent.
Oui. C'est permanent. Vous pouvez prendre rendez-vous à la Société francophone et notre conseillère Valérie Dionne vous aide dans votre recherche en vous donnant des informations. Elle vous aide à refaire votre CV, vos lettres de motivation. Voilà, elle vous indique les bons endroits où aller.
Sensationnel.
Il y a aussi, alors la veille, pour ceux qui ne savent pas trop comment faire pour faire son CV, pour se présenter, il y a la préparation à la foire de l'emploi. Et là, c'est le jeudi 24 novembre, de 17h à 19h, au collège Éducacentre, 531 rue Yates. Vous y accédez par le troisième étage, entrée via la Commercial Alley.
Donc c'est comme un petit réchauffement avant de se présenter à la foire en tant que tel le lendemain.
Exactement. Et alors, pour qui cela est destiné ? C'est tout simplement pour ceux qui veulent avoir des conseils pour capter l'attention des recruteurs, pour savoir vendre ses compétences en quelques secondes et aussi pour augmenter ses chances d'être rappelé pour un entretien. L'inscription, c'est bdiene@ffcb.ca. Pareil, vous allez sur notre site francocentre.com, actualité. Vous cliquez sur le jeudi 24 novembre, vous avez une affiche qui vous emmène avec un lien pour vous inscrire.
Alors, c'est un rendez-vous pour le 25 novembre 2016. On répète l'adresse encore une fois.
C'est... au GT Haring, 415 rue Gorge Est. Vous inscrivez, c'est absolument indispensable de s'inscrire.
Au préalable,
sur Internet.
Donc, s'inscrire, c'est fondamental, c'est requis. On peut pas se présenter sans s'être inscrit, donc c'est important.
Ça va être un peu plus compliqué, voilà, oui, parce qu'on a besoin de s'organiser et c'est indispensable de savoir combien de personnes vont venir.
D'accord, alors avis à tous les chercheurs d'emploi. Un grand merci, Dominique, pour cette visite.
Merci à tous pour votre écoute. À bientôt.
À bientôt. Voilà, c'était Dominique Wozniak, chargé des communications pour la Société francophone de Victoria. 16h55, c'est déjà terminé ou presque pour cette édition du débrief en ce 21 novembre. Merci de nous avoir suivis dans ces 60 minutes d'information. On a quelques petites minutes pour la météo, une dernière météo avant de se laisser. On a actuellement 10 degrés au centre-ville de Victoria. Du côté du port de Victoria, c'est 11 degrés et à l'aéroport, à proximité de Sydney, on a également 10 degrés présentement. Pour les prochaines heures, ça demeure dégagé, mais après 21 heures, il y a des possibilités d'averses, pluies intermittentes. C'est ce que nous annonce Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca. Le reste de la semaine est assez maussade. Vous allez voir, je vous fais le récit, ou plutôt la projection qui est effectuée par Environnement Canada. Donc, mardi 22 novembre, demain, 10 degrés avec quelques averses. Mercredi 23 novembre, 9 degrés avec 70% de possibilité d'averses. Jeudi 24 novembre, 10 degrés avec averses. Et ça se poursuit les vendredis, samedi et dimanche 25, 26, 27 novembre. Décidément, on n'y échappe pas. Mais généralement, en tout cas, si... le passé est garant de l'avenir. Les averses ne sont pas trop longues ces derniers temps. On peut se faufiler entre les averses. Espérons que ce sera encore le cas au cours des prochains jours. Sinon, un petit coup d'œil au radar. On va rafraîchir le radar rapidement. Je vous le disais au début d'émission, il n'y a aucune averse dans le sud de l'île de Vancouver actuellement. Ça se rapproche, mais ça n'est pas encore sur nos côtes. Du côté de Vancouver, ils ont des averses dans le moment présent du sud au nord, donc du traversier de Tawasin jusqu'à North Vancouver. Et les averses devraient se poursuivre en soirée. Autrement, un petit regard à la météo rapidement. On a des ralentissements importants sur la transcanadienne direction nord, donc en direction de Nanaimo. C'est constaté notamment à l'angle de Mackenzie, un ralentissement de quelques minutes. Et ça se reproduit juste après Langford, juste avant d'entrer dans le tronçon du Malahat, le fameux segment Malahat, un ralentissement de quelques minutes. Donc, la vitesse moyenne à cet endroit est autour de 30 km/h. Cependant, c'est très beau, c'est ouvert pour la suite. Donc, le Malahat est dégagé, la circulation roule bien entre le Malahat, donc entre Langford et Duncan, Mill Bay, grosso modo. Ça se passe bien jusqu'à Nanaimo. Donc, voilà, c'est la fin du débrief. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même heure, même poste. Excellente soirée à tous.